le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
Il est des textes de loi qu'il est bon de lire. La loi du 28 mars 1882, par exemple, elle est signée Jules Grévy, président de la République, et par Jules Ferry, les deux Jules, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. Voici ce qu'elle dit. L'enseignement primaire comprend l'instruction morale et civique, la lecture et l'écriture, la langue et les éléments de la littérature française, la géographie, particulièrement celle de la France, l'histoire, particulièrement celle de la France jusqu'à nos jours, nous sommes en 1882, quelques notions usuelles de droit, d'économie politique, les éléments des sciences naturelles, physiques et mathématiques, leur application à l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des principaux métiers, les éléments du dessin, du modelage et de la musique, la gymnastique bien sûr. Nous sommes en 1882, il faut contextualiser la loi. Elle précise, pour les garçons, les exercices militaires, pour les filles, les travaux à l'aiguille. Mais surtout l'article 2 précise, les écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse en dehors des édifices scolaires. Ce jour particulier, c'est le jeudi en 1882. Est-ce le début des combats pour une école laïque? Non, c'est un temps de ces combats qui ont commencé bien avant, qui se poursuivent bien après, qui se poursuivent aujourd'hui encore. Dans le cadre de la journée spéciale Émancipation Générale, les combats pour l'éducation, le cours de l'histoire s'intéresse aux hussards noirs de la République. Oui, ces combats pour la laïcité. Des émissions à écouter, réécouter en ligne et à podcaster sur le site du cours de l'histoire, franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et aujourd'hui, pour nous parler de cette école à laquelle nous tenons tant, l'école de la République, Jérôme Krop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'INSPE, c'est l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation, l'INSPE de Lille, rattaché à l'Université de Lille, et vous êtes l'auteur de La méritocratie républicaine, élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République, et d'un autre ouvrage intitulé « Les fondateurs de l'école républicaine, la première génération des instituteurs sous la Troisième République ». Jérôme Krop, ce terme de hussard noir de la République connaît un immense succès, il est utilisé aujourd'hui souvent. Il faut sans doute le recontextualiser. La laïcité liée à l'école nous fait penser à 1905, la loi qui sépare les églises et de l'État. Non, c'était avant, c'est les lois Ferry dans les années 1880. Et l'expression hussard noir est plus tardive, 1913, avec Charles Péguy. Cette figure de l'instituteur est une figure vécue par les gens ou une figure reconstruite par la patine du temps presque idéalisée aujourd'hui?
Elle est vécue dans une certaine mesure par les instituteurs de l'époque qui se sont investis d'une mission. La Troisième République a investi l'école de cette mission d'enraciner le régime républicain au cœur de la société française. Et ces instituteurs l'incarnation d'une certaine manière de la République jusque dans le plus petit hameau de France. Ils ont pour la plupart évidemment vécu cette mission intensément, même si cela renvoie dans le texte de Péguy davantage aux instituteurs normaliens qui ont fréquenté l'école normale, ce qui n'était pas le cas de tous les instituteurs de cette époque. Donc ces instituteurs normaliens, ils sont évoqués par Charles Péguy en 1913, comme vous l'avez dit. Alors c'est dans une certaine mesure une reconstruction mémorielle de la part de Charles Péguy, puisqu'en 1913, il évoque sa scolarité à l'école normale, dans l'école annexe, pardon, de l'école normale d'Orléans, qu'il fréquentait enfant. Et donc il recevait chaque semaine l'enseignement d'un jeune instituteur différent qui venait de cette école normale pour s'exercer à la pédagogie auprès des élèves de l'école annexe. Et donc Charles Péguy en 1913 évoque avec beaucoup de nostalgie d'une certaine manière sa scolarité dans les années 1880, au début des années 1880, lorsque les lois Ferry sont entrées en application.
Jérôme Krop, je vous propose justement la lecture de cet extrait de L'Argent, donc écrit par Charles Péguy en 1913, où il est question des hussards noirs. C'est une lecture dans le cours de l'histoire par Olivier Martineau.
Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais je pense avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, il est aussi la couleur de l'enseignement primaire. Un gilet noir, une longue redingote noire, bien droite, bien tombante, mais deux croisements de palmes violettes au revers. Une casquette plate, noire, mais un croisement de palmes violettes au-dessus du front. Cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire, encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique.
Les hussards noirs, tels que décrits par Charles Péguy en 1913, il est toujours important de contextualiser. Nous évoquons ces lois Ferry qui rendent l'école obligatoire, laïque, publique, l'enseignement laïque, dans les années 1880, Jules Ferry, la France est en train de constituer son empire colonial. Et avec nous également, pour nous parler de ces hussards noirs, Céline Labrune-Badiane. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante chercheuse à l'université Hassan Seck. C'est à Zinguishor, donc c'est dans la région de Casamance, au sud-ouest du Sénégal. Vous êtes au Sénégal en ce moment.
Oui, à Zinguishor.
Et vous avez fait votre doctorat à l'université Paris, anciennement Paris Diderot, avec une thèse intitulée « Le processus de scolarisation en Casamance, rythme et logique ». Et vous en avez tiré un ouvrage avec Étienne Smith, « Les hussards noirs de la colonie, instituteur africain et petite patrie en AOF, Afrique occidentale française ». Dites-nous, Céline Labrune-Badiane, que signifie ce choix de hussards noirs pour les colonies? Le mot a sa pertinence aussi?
Alors disons qu'il ne faut pas évidemment transposer une réalité dans un autre contexte sans réfléchir aux différences qu'il y a entre les contextes. Déjà le contexte politique est extrêmement différent puisqu'on est en situation coloniale en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique occidentale française, et d'autre part ce n'est pas la même école qui est transposée, qui est exportée dans les colonies. Ce n'est pas l'école de la République, c'est une école qui a des visées ultra conservatrices et essentiellement conservatrices. Mais néanmoins, en fait, c'est le directeur de publication qui a choisi ce titre, Jean-François Bayard, et on a discuté ensemble de ce choix. Il y a l'idée quand même en commun qu'évoquait Jérôme Kropp tout à l'heure, qu'il y a une mission à accomplir. Et ces instituteurs africains aussi considèrent qu'ils ont une mission à accomplir et ils ont cette foi en commun, en des valeurs et en un idéal à poursuivre.
Oui, c'est cet idéal qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, quand nous nous intéressons aux instituteurs, aux enseignants, aux hussards noirs de la République, qu'il s'agisse de la France au sens de la métropole et des colonies, parce que nous sommes à la fin du 19e siècle, quand sont mises en place ces lois qui instaurent la gratuité, la scolarité obligatoire et l'enseignement laïque. Jérôme Kropp, au moment où Jules Ferry met en place ces lois, il est héritier d'une longue tradition. Nous sommes dans les années 1880, la République a été proclamée en 1870, dites donc qu'il faut 12 ans pour arriver à ces lois, une dizaine d'années. C'est le fruit d'une grande famille de pensée sur la manière dont il faut enseigner aux enfants la République, mais pas seulement, c'est une manière de vivre en société.
Oui, et la laïcité apparaît comme un élément central de cet idéal. La laïcité pour les républicains qui sont majoritaires assez tardivement, c'est en 1879 qu'ils sont majoritaires à la fois à la Chambre des députés et au Sénat. Et donc la laïcité est pour eux d'abord un idéal et un principe d'organisation de la société. Et évidemment, ils sont Victor Duruy notamment avait commencé à entamer ce processus de laïcisation de l'école, qui est parachevé par la loi du 28 mars 1882. Et donc ces instituteurs, ces hussards noirs, ils sont en quelque sorte des combattants de l'instruction publique, hein, qui vont essayer de convaincre la population des bienfaits de la laïcité, qui vont s'efforcer de laïciser les écoles et encore une fois de convaincre les familles en procédant, en tenant compte du milieu dans lequel ils exercent. On pense évidemment aux régions les plus catholiques, les plus ferventes, dans lesquelles ces instituteurs laïcs vont être confrontés parfois à une hostilité d'une partie de la population et à la concurrence de l'enseignement congréganiste. Et ces instituteurs vont devoir faire la preuve de à la fois de l'efficacité pédagogique de cette école et de montrer l'intérêt que peut avoir le principe de laïcité fondé sur la liberté de conscience.
Jérôme Croff, vous avez évoqué Victor Duruy, donc le ministre de l'Instruction publique sous le Second Empire, sous Napoléon III, qui avait déjà mis en place des éléments de gratuité de la scolarité, des éléments, ou en tout cas des réflexions qui n'avaient pas abouti pour rendre l'école obligatoire. La laïcité n'était pas encore de mise à ce moment-là, bien au contraire d'ailleurs. Il faut rappeler que la question de l'enseignement religieux se pose, car à l'école elle-même, il y avait des cours de religion, d'enseignement de la religion. Et la volonté de Jules Ferry, justement, est de rendre l'école neutre, qu'il n'y ait plus à l'intérieur de l'école tous ces débats. Si un enfant de laïcard rencontrait un enfant qui était très catho, ça risquait de se taper à l'école. La volonté était de rendre l'école neutre.
Oui, c'est-à-dire que, le comme vous l'avez expliqué au début de l'émission, l'enseignement religieux devient une affaire qui ne dépend uniquement des familles, en dehors des locaux scolaires, pendant la journée de congé du jeudi. Et donc à partir de 1882, il n'y a plus d'enseignement religieux à l'école. Cet enseignement est remplacé par une instruction morale et civique. Pour les républicains, il s'agit donc d'instituer un enseignement fondé sur des connaissances positives et bannissant toute volonté de transmettre des croyances religieuses ou philosophiques, même si, évidemment, on demande aux instituteurs d'être les propagateurs des valeurs de la République, notamment de l'attachement à la démocratie, à la déclaration des droits de l'homme. En gros, de faire de la citoyenneté une appartenance qui unit tous les Français par-delà la diversité de leurs croyances religieuses ou de leurs options philosophiques.
Avec des tensions évidentes, vous l'avez évoqué, Jérôme Croff, dans les régions où le catholicisme est fervent, où il y a tout de suite entre le curé et l'instituteur des rivalités que l'on peut imaginer, même si, vu de haut, nous voyons ces tensions. Mais vous avez travaillé au plus proche du personnel. Vous avez étudié l'histoire de ce corps, de ces fondateurs de l'école républicaine. Je reprends le titre de votre ouvrage, de ces hussards noirs, mais à partir des dossiers, non pas à partir de la volonté de l'institution de mettre en place cette école. Quand on regarde dans les dossiers, est-ce qu'il apparaît des tensions évidentes avec le curé du village ?
Alors, dans les dossiers que j'ai étudiés correspondaient essentiellement au département de la Seine, qui, dès cette époque, est déjà assez largement urbanisé. Donc je pensais être peu confronté à ces questions. Néanmoins, y compris à Paris, on constate dans ces années-là que les instituteurs sont confrontés déjà à une concurrence vraiment très importante de la part de l'enseignement privé congréganiste. Et aussi, parfois, à des manifestations d'hostilité de l'Église vis-à-vis de l'école dite sans Dieu, c'est-à-dire est jugée immorale. Par exemple, on voit certains curés de paroisses de Paris qui mettent en place des cours de catéchisme pendant les horaires scolaires pour inciter les familles catholiques les plus croyantes à ne pas scolariser leur enfant à l'école publique, mais dans les écoles privées congréganistes, alors que c'est tout à fait illégal d'après la loi. Ouais. Donc on observe ce genre de choses, effectivement.
Avec de véritables tensions, bien sûr, et puis parfois, tout se passe très bien. Je vous propose un extrait d'une émission radiophonique, une émission de l'ORTF intitulée « Arguments ». Nous étions en avril 1970 et il était question de la relation entre l'instituteur et le curé du village avec un témoignage.
Vous m'avez parlé du curé, les relations avec le curé, c'était comment ici ?
Ah, moi j'ai eu des relations extrêmement cordiales. Et le curé de Pétoroux, qui est donc mort maintenant, m'a envoyé même sa nièce à l'école. C'est pour vous dire à quel point il estimait que nous avions un enseignement qui était laïque, comme laïque dans le vrai sens. C'est-à-dire qu'il n'était pas anti-curé, anti-religion, discours, il était laïque, c'est-à-dire qu'il était en dehors de tout, mais ça pouvait convenir à n'importe qui, n'importe quelle croyance.
C'était pratiquement la lettre aux instituteurs de Jules Ferry.
Sans doute.
Voilà, sans doute la lettre aux instituteurs de Jules Ferry, lue en hommage d'ailleurs aujourd'hui à Samuel Paty, Jérôme Krop. Dans cette histoire des combats pour une école laïque, une école de la République, effectivement, nous avons, dans les premières années, donc ces années 1880 et plus encore, un combat qui est fait autour de la religion catholique. Ces combats, historiens que vous êtes, vous les cherchez, et c'est normal, nous les voyons, ces combats. Pourtant, nous l'entendons dans cet extrait, la laïcité dans l'école est faite pour éviter les combats. Il y a ce paradoxe, en fait, sans cesse, où c'est un jeu de provocation qui se met en place, d'identité, pour récupérer une partie de l'aura que pouvait avoir d'un côté l'Église, de l'autre côté la République, dans la formation des jeunes esprits.
Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut peut-être signaler par rapport à ce combat laïque des années 1880, c'est que l'ambition est vraiment de convaincre et de pacifier la situation. Même s'il y a des situations de concurrence, d'affrontement, la loi, par exemple, a été vraiment conçue dans un esprit de concorde civile. Ainsi, certaines dispositions d'ailleurs qui vont être prises dans la vie quotidienne des écoles et dans les programmes montrent cette volonté. Il y avait une volonté d'afficher aussi une certaine ouverture. Par exemple, dans le programme d'instruction morale et civique, qui était laïque, subsistait un chapitre qui était dédié au devoir envers Dieu. Donc là, on sortait évidemment de la laïcité. Et donc ce chapitre intitulé « Les devoirs envers Dieu », sans préciser de quel Dieu il s'agit, était placé à la fin du programme d'instruction morale et civique. Ainsi, l'enseignant pouvait éventuellement développer ce thème si le contexte s'y prêtait et s'il en ressentait le besoin vis-à-vis de ses élèves. Mais il pouvait aussi oublier ce chapitre de fin d'année si ça heurtait sa sensibilité et s'il ne le jugeait pas utile.
Oui, c'est important de le souligner d'ailleurs parce que entre la lecture des textes officiels, des instructions, de tout ce qui est publié et de l'autre côté la liberté laissée aux enseignants, il y a toujours une voie à trouver. Tous ces textes officiels laissent de la liberté aux enseignants. D'ailleurs, la lettre de Ferry aux instituteurs, lue dans son intégralité, laisse une vraie liberté aux enseignants. C'est cette pratique aussi qui nous intéresse et je voudrais que nous évoquions ce cas très particulier, toujours dans ces années de la fin du 19e siècle, 1880-90 et tout le début du 19e siècle, dans un contexte de colonisation. Céline Labrune-Badiane, quelle est la part laissée à la liberté de l'enseignement pour les instituteurs dans les colonies françaises? Pour le dire autrement, nous avons ce cliché, nous apprenions aux petits-enfants nos ancêtres les Gaulois. Est-ce une réalité?
Non, absolument pas. En fait, d'ailleurs, de la même manière que dans les écoles de métropole, l'enseignement est adapté aux réalités locales, c'est-à-dire qu'il y a un tronc commun et l'enseignement du milieu local à l'école. Donc on enseigne par exemple l'histoire locale, l'histoire du village, l'histoire de la région. Néanmoins, la manière dont on va enseigner l'histoire, elle doit mettre en évidence les bienfaits de la présence française. Mais les contenus donc qui sont produits par les instituteurs, ce sont eux-mêmes qui vont finalement mener des recherches dans les villages, dans la région, pour pouvoir produire ces contenus et les enseigner à leurs élèves. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pour des raisons de la même manière qu'en métropole pédagogique qu'on enseigne d'abord le milieu local, mais c'est aussi pour des raisons idéologiques. Et là, on parle de régions essentiellement rurales où on ne veut pas former de déracinés qui partiront en ville. Et ça, ces thématiques-là, bon, c'est c'est une hantise pour le pouvoir colonial, mais de la même manière, en métropole aussi, c'est un discours qui est récurrent. La différence qui est fondamentale entre l'enseignement adapté, disons, dans les colonies et en métropole, c'est que il n'y a pas que l'enseignement, le contenu qui est adapté, mais aussi les diplômes et les professions auxquelles cela donne accès. Donc l'adaptation se fait au prix de l'inégalité.
Oui, Céline Labrune-Badiane, il faut préciser cet aspect-là parce qu'il est important dans l'objectif de la scolarisation des enfants. Il y a l'élévation de la réflexion, puis l'instruction, tout simplement, lire, écrire, compter. Mais dans le contexte colonial, la visée est de former une population de futurs, non pas gens éclairés, parce que ce n'est pas ça du tout l'intérêt, c'est d'avoir des personnes apte à répondre aux attentes du colonisateur.
Exactement. En fait, c'est la différence fondamentale, c'est que l'école coloniale, elle ne vise pas à former des citoyens, mais pour reprendre les termes d'un gouverneur général, elle vise à former des hommes utiles, et j'ajoute subalternes, donc des auxiliaires de l'administration ou pour le commerce.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est toujours cette différence qu'il faut souligner. Mais avec un aspect qui m'a intéressé hein, en regardant vos travaux, Céline Labrune-Badiane, c'est que les instituteurs qui sont dans les colonies, les hussards noirs de la colonie, instituteurs africains et petite patrie, c'est le titre de votre ouvrage avec Étienne Smith, sont des locaux. Il n'y a pas, ce ne sont pas systématiquement, il y en a, mais ce ne sont pas systématiquement des gens venus de France, des instituteurs venus de France.
Voilà, les locaux sont majoritaires à partir de la Première Guerre mondiale, au moment où les instituteurs venus de la métropole reviennent sur les fronts. Et c'est progressivement, donc à partir de ce moment-là, qu'ils sont majoritaires. Je tiens à dire aussi, comme Jérôme Kropp, qu'il y a une grande diversité de statuts, et donc on a aussi des instituteurs qui ont été formés à l'école normale, et on a l'école normale William Ponty, donc qui avait été créée en 1903 et rebaptisée pendant la Première Guerre mondiale, qui a formé en fait les premières élites politiques, les premiers intellectuels africains qui ont en tout cas mené les États indépendants.
Émancipation générale, les combats pour l'éducation. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux hussards noirs de la République ou les combats de l'école laïque.
Je suis le nouvel instituteur de Trémia.
Instituteur ?
France Culture.
Dis-moi, Marguillet, c'est quoi un instituteur ?
Un maître d'école.
Le cours de l'histoire.
Je vois pas très bien à quoi ça sert, l'école.
À quoi ça sert ? Je vais vous le dire. À les sortir de la misère. À leur permettre de créer une société qui ne fera pas de l'enfant un esclave. Et une société qui n'en sera pas plus pauvre. Bien au contraire.
Xavier Mauduit.
Créer une société où l'école permet aux enfants de les sortir de la misère, de les éclairer. C'est un extrait du temps d'une République, un hussard noir en pays blanc d'Alain Boudet. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ce moment de la fin du 19e siècle quand est mise en place cette école laïque, avec un long processus pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui des républicains, une réflexion autour de la laïcité à l'école, une réflexion qui passe par un idéal. Et cet idéal, eh bien, il est enseigné à travers notamment la dictée, moment magique où l'instituteur disait « prenez votre feuille, prenez votre plume », une sergent-major, une dictée que nous écoutons à travers une série télévisée française de 1984 réalisée par Jean-Pierre Marchand. Attention, dictée.
Je vais te lire ces 12 lignes. Si tu fais moins de 15 fautes, c'est beaucoup 15 fautes, plus d'une faute par ligne, tu restes. Sinon, c'est que tu auras besoin de l'école et je te jure que tu iras. Je lis d'abord une fois. Le progrès de l'homme par l'avancement des esprits, point de salut hors de là. Enseignez, apprenez. Toutes les révolutions de l'avenir sont incluses, amorties dans ces mots, instruction gratuite et obligatoire. Mangez le livre. Partout où il y a agglomération d'hommes, il doit y avoir, dans un lieu spécial, un explicateur public des grands penseurs. Nul ne peut savoir la quantité de lumière qui se dégagera de la mise en communication du peuple avec des génies. L'ignorance est un appétit. Le voisinage de la nature rend l'homme du peuple propre à l'émotion sainte du vrai. Tous les enseignements sont dus au peuple. Voilà. Tu connais Victor Hugo ?
Non.
Eh bien, c'est lui qui a écrit ça.
Et ben voilà, c'est Victor Hugo qui a écrit ça dans William Shakespeare en 1864. C'est un extrait de la dictée, la série réalisée en 1984 par Jean-Pierre Marchand. Jérôme Kropp, alors que nous réfléchissons dans le cours de l'histoire aujourd'hui sur les hussards noirs de la République et les combats de l'école laïque, nous avons des figures qui s'imposent. Des gens comme, nous l'avons entendu, Victor Hugo, Jules Ferry et tant d'autres. il faut rappeler, aujourd'hui ces gens sont statufiés, il y a des noms d'école et c'est mérité sans doute, mais il y avait à ce moment-là un idéal qui représentait plus une nécessité. Il y avait la République à enraciner en France et une fois qu'elle est enracinée, à lui permettre de fonctionner, c'est-à-dire la République se veut la synthèse de l'ensemble de la nation, ne pas exclure la République laïque. La République veut une école laïque, justement pour que tout le monde se sente concerné par le régime.
Oui, absolument. L'ambition de l'école républicaine est de renforcer l'unité nationale, le sentiment d'appartenance civique qui doit permettre à la République de perdurer, alors que les précédentes tentatives d'instauration d'une République démocratique s'étaient heurtées à des obstacles politiques et très importants. On se rappelle du coup d'État du 2 décembre 1851. Et donc pour que cette République s'enracine durablement, la République pardon s'en est remise assez largement à l'école et à ses instituteurs. Et là il faut insister sur la diversité de ces instituteurs, il me semble, notamment sur le rôle des institutrices qui, du fait de la séparation des sexes à l'école, représentent plus de la moitié du corps enseignant dès cette époque. Et donc ces institutrices, ce sont souvent elles en fait qui ont assuré la laïcisation parce que beaucoup d'écoles publiques étaient placées sous la tutelle de congrégations religieuses avant les lois Ferry. Et donc ce sont ces institutrices, ces femmes qui souvent ont opéré cette œuvre de laïcisation, ont transmis ces valeurs républicaines à leurs élèves dans les écoles publiques, alors que la figure du hussard noir est très masculine et martiale et tend à masquer ce rôle éminent des institutrices à l'époque.
Jérôme Croix, vous avez raison de souligner donc le rôle des institutrices essentiel et la différence de formation des instituteurs. Comment ces instituteurs étaient-ils formés dans cette fin du 19e siècle et le début du 20e siècle?
Alors, les instituteurs normaliens donc fréquentaient ces séminaires laïcs qui étaient les écoles normales, c'est-à-dire des établissements qu'ils fréquentaient pendant 2 à 3 ans, qui étaient des internats, et dans lesquels ces futurs instituteurs, qui étaient très jeunes, ils avaient entre 16 et 18 ans, ces instituteurs donc vivaient ensemble avec leurs enseignants formés dans les écoles normales supérieures. Et ces instituteurs développaient un esprit de corps évidemment très important, une identité professionnelle très forte, alors que les autres enseignants, ceux qui n'étaient pas entrés dans la profession l'école normale, eux devaient se former davantage sur le tas, après avoir passé un brevet certifiant de leur niveau d'instruction. Et ils étaient majoritaires, c'est-à-dire que, par exemple dans la Seine, hein, entre 1870 et 1886, si on prend les enseignants recrutés pendant cette période, moins de 30% des instituteurs de la Seine étaient normaliens. Donc 70% s'étaient formés en dehors finalement de l'école normale, souvent sous la tutelle d'un instituteur qui prenait sous son aile un élève particulièrement brillant pour l'amener à passer le brevet élémentaire, puis à entrer dans la profession enseignante.
Jérôme Croix, vous avez étudié des centaines de dossiers d'instituteurs et dans cette étude de ces dossiers d'instituteurs, vous avez dû croiser autant de parcours de vie différents. Donc cette minorité d'élèves de l'école normale avec l'uniforme noir, ces hussards noirs, nous la saisissons bien. Mais pour les autres, il y a des hommes, des femmes, des parcours en fait très différents, ne serait-ce que par l'origine sociale, j'imagine.
Oui, absolument. Alors, à l'époque, la société française a quand même été très frappée par le fait que la République faisait la promotion des meilleurs élèves de l'école publique en leur permettant de devenir instituteurs. C'est une mobilité sociale qui a frappé les imaginaires. Charles Péguy en est l'exemple, hein, puisque lui-même était issu d'un milieu très très modeste. Hein, sa mère était rempailleuse de chaises il a été pris sous l'aile du directeur de l'école normale du Loiret, qui l'a amené à avoir une bourse pour entrer au lycée et à aller jusqu'à l'école normale supérieure. Néanmoins, l'origine sociale des enseignants elle peut être assez diversifiée. Hein. Dans le cas de Paris, c'est particulièrement frappant. Si environ 40% des instituteurs sont issus d'un milieu très modeste, hein, paysan, ouvrier, un certain nombre sont issus d'un milieu plus aisé, notamment parmi les institutrices, qui sont très nombreuses être issues, on va dire, d'une petite bourgeoisie, subissant parfois une forme de déclassement et qui trouvent dans la fonction d'institutrice des moyens de subsistance et finalement une profession, ce qui n'est pas commun d'ailleurs à l'époque pour les femmes, d'avoir une fonction aussi impliquant des responsabilités aussi importantes dans la société française.
Et puis nous évoquons les statuts très divers de ces instituteurs, de ces institutrices. Il faudrait évoquer aussi le public très divers, parce que ce n'est pas du tout la même chose d'être instituteur dans une banlieue ouvrière, d'être instituteur dans un village de la Bretagne catholique. Il y a une adaptation de la part de ces enseignants, de leur discours, toujours en appliquant la laïcité, mais de façon à ne pas heurter, à ne pas provoquer. Est-ce que cela laisse des traces dans les sources, dans les archives?
Alors, je l'ai personnellement peu étudié, étant donné que je me suis consacré avant tout au département de la Seine, donc département très urbanisé. Mais Jean-François Chanel, notamment, a travaillé sur les petites patries et la manière dont les enseignants intégraient à leur pédagogie des références à cette petite patrie que connaissaient les élèves, à ces provinces, à ces terroirs, dans une France beaucoup plus diverse sur le plan culturel, sur le plan linguistique, sur le plan des structures familiales que la société française d'aujourd'hui. Et Jean-François Chanet a bien montré que les instituteurs, loin de bannir toute référence à cet enracinement dans les provinces et les terroirs de France, Jean-François Chanet a montré que cela imprégnait la pédagogie de ses enseignants jusque dans parfois l'usage du dialecte, puisque le recrutement des instituteurs est départemental. Ces instituteurs étaient issus en fait de ces populations rurales et n'hésitaient pas à utiliser leurs compétences culturelles régionales pour impliquer les élèves dans leur scolarité.
Oui, parce qu'il faut rappeler sans cesse que le français n'est pas la langue maternelle de nombreux petits français et petites françaises. Il y a les patois, il y a les langues régionales. Et puis il y a même cette conscience d'appartenir à un pays. Bien souvent, on est plus souvent breton, normand, picard avant d'être français. Tout doucement, cette notion d'appartenance se met en place. La question se pose d'autant plus fort pour les colonies. Je voudrais que nous écoutions la lecture par Olivier Martineau d'un texte d'un inspecteur général de l'enseignement, inspecteur général en Afrique occidentale française. C'est un texte de 1931. Cet inspecteur s'appelle Albert Charton.
En ce pays, la colonisation, qui doit être dès l'abord une œuvre indigène, exige l'éducation. Au point de vue politique, il s'agit de faire connaître aux indigènes nos efforts et nos intentions de les rattacher à leur place à la vie française. Au point de vue social, il s'agit de faire évoluer la société indigène dans son cadre, de la dégager sans heurts et sans troubles de ses traditions trop tyranniques. Au point de vue économique enfin, il s'agit de préparer les producteurs et les consommateurs de demain.
Un texte d'un inspecteur général qui s'occupe de l'Afrique occidentale française, Albert Chatron, qui dit très bien, le but de l'enseignement dans les colonies, de préparer les producteurs, les consommateurs de demain. Et puis, il y a cette réflexion autour de ce qu'est la société indigène en lien avec la métropole. Céline Labrune-Badiane, il y a cette idée que nous avons à faire avec le public que vous avez étudié pour l'enseignement dans les colonies, d'enfants qui ne se sentent pas français. Ils ne sont pas en France, ils sont colonisés. Qu'est-ce que met en place l'institution scolaire pour leur donner le sentiment de faire partie d'une communauté? Ou alors est-ce qu'il y a des barrières déjà mises en place? Céline Labrune-Badiane.
Ah, excusez-moi, je vous entendais plus du tout, je viens de vous re-entendre, alors, donc j'ai pas entendu la question.
Je vais vous reposer la question, je rappelle que vous êtes au Sénégal, c'est la magie de la radiodiffusion. Je vous demandais, un public des colonies qui ne se sent pas particulièrement lié à la France, c'est un public colonisé, et face à un instituteur de la République française, quel programme mis en place par l'institution, quelles réflexions font qu'il y a la volonté de donner ou pas à cet enfant le sentiment d'appartenir à une communauté nationale, celle de la France?
Je voulais juste dire que ce n'est pas un instituteur de la République. L'école telle qu'elle est mise en œuvre dans les colonies, c'est une école qui est même, j'ai envie de dire, anti-républicaine, qui va à l'encontre des valeurs de la République puisqu'elle ne promeut ni la liberté, ni l'égalité. Mais néanmoins, ce qu'expliquait Jérôme Kropp précédemment, cette idée, à partir des travaux de Jean-François Chanet, le fait d'enraciner le pouvoir républicain dans les provinces françaises, ça a été la même démarche, finalement, pour enraciner le pouvoir colonial dans les différentes régions de l'Afrique occidentale française. Et donc, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, l'enseignement du milieu local, notamment à l'école. Et effectivement, tous ces instituteurs qui étaient formés à l'école normale, qui se situaient dans l'actuel Sénégal, donc à Saint-Louis, et ensuite à Gorée, et ensuite à Sébi Kotane, qui est à une trentaine de kilomètres de Dakar, étaient généralement, donc ils venaient en fait de toute l'Afrique occidentale française, principalement du Soudan, du Sénégal et du Dahomey, et ils repartaient ensuite dans leur territoire, dans leur colonie d'origine, et le plus souvent aussi dans leur région d'origine, mais tout dépendait effectivement en fait des effectifs qui étaient disponibles.
Et puis, dans la réflexion sur l'enseignement laïque, Céline Labrune-Badiane, il y a le contexte particulier. Disons que en France, les problèmes se posent entre l'Église catholique et puis l'école. C'est vraiment quelque chose qui traverse cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Et puis, l'école laïque s'impose et elle est acceptée. Mais dans le cadre des colonies, d'autres religions sont partie prenante de cette question-là. Est-ce que cela pose problème ? Est-ce que un enseignement laïque est accepté ou est-ce qu'il doit être adapté dans les colonies ?
Alors, à la fin du 19e siècle, l'enseignement est essentiellement dispensé par l'enseignement de type français, essentiellement dispensé par des congrégations religieuses et davantage catholiques. Donc, il y a le même type de tension, finalement, que celle qu'on a, en métropole. Ce que je voudrais dire sur la laïcisation dans les colonies, c'est que la laïcisation de l'école, elle intervient à partir de 1905 et elle est beaucoup plus progressive parce que, justement, en fait, l'État colonial ne se donne pas les moyens de remplacer les écoles missionnaires par des écoles publiques. Donc on va davantage composer avec les autorités religieuses, que ce soit d'ailleurs catholiques ou musulmanes sur place.
Et puis il y a toujours cette question d'un combat continu. L'idée de mettre en place un enseignement laïque est datable. Nous pouvons évoquer cette loi de 1882, la loi Ferry, et puis d'autres lois, celle de 1886, qui interdit aux instituteurs publics les fonctions de maire, d'adjoint au maire, enfin toute une réflexion en fait qui s'étend sur une longue durée. Jérôme Kropp, ce combat ne se termine jamais. Il y a sans cesse des obstacles auxquels est confrontée cette volonté de mettre en place un enseignement laïque. Et là, je parle du point de vue de l'enseignant, parce que vous avez fait une histoire au niveau de l'instituteur et l'institutrice.
Oui, de toute façon, le travail pédagogique auprès des élèves de réflexion, de transmission des valeurs républicaines, de la construction de la citoyenneté chez les enfants, c'est un processus qui doit constamment être réactualisé à chaque génération. Et finalement, c'est depuis cette époque, les instituteurs, puis les enseignants du second degré, ensuite, jusqu'à aujourd'hui, on fait ce travail de construction de la citoyenneté. Citoyenneté, évidemment, tout à fait.
Et puis avec cette idée, mais ça c'est en écho à l'actualité, nous l'avons vu après l'horrible assassinat de Samuel Paty, ce sentiment de ne pas être écouté. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît également par le passé, sur les périodes que vous avez pu étudier, Jérôme Kropp, sur cette formation de l'école républicaine, l'idée qu'il faut écouter aussi la parole venue du bas et qui remonte ?
Alors, je ne pourrais pas affirmer que les enseignants se heurtaient aux mêmes difficultés. Je pense qu'il y a une différence fondamentale quand même par rapport à l'époque dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est que l'école est peut-être davantage exposée à la concurrence d'autres médias, d'autres médiums culturels qui rendent parfois l'école moins audible. Les hussards noirs de la République avaient l'avantage d'être moins confrontés finalement à une concurrence d'autres vecteurs de représentation, de croyances éventuellement et de représentation même politique.
Oui, la force de l'école, effectivement, c'était cette voix du professeur qui pouvait être concurrencée hein, par parfois la voix parfois, du curé, mais qui n'avait pas ses réseaux sociaux, même si la presse était encore très forte. Et pour le cas particulier des colonies, Céline Labrune-Badiane, il y a aussi ce paradoxe étonnant que certains aspects des programmes étaient écartés, la Révolution française, l'idée d'émancipation pouvait être mise de côté, mais malgré tout, le fait que certains enseignants viennent d'un monde plus local, avec cette notion de petite patrie, fait que l'école a pu faire naître, alors on ne va pas aller jusqu'à dire la négritude bien avant Léopold Sédar Senghor, mais une forme de conscience de ce qu'est la colonisation et surtout de la nécessité de lutter contre la colonisation.
Oui, c'est-à-dire que c'est exactement ça. L'école coloniale, finalement, elle a été émancipatrice malgré elle. Et les instituteurs ont vraiment cru en ces possibilités émancipatrices. Vous parliez de l'enseignement de la Révolution française, par exemple. Effectivement, il était interdit à partir de 1924, mais certains instituteurs en cachette ont enseigné les programmes qui étaient en vigueur en métropole. On a des témoignages comme ça d'instituteurs donc qui expliquent que quand le directeur de l'école arrive dans la classe, hop, il demande aux élèves de changer de cahier et quand il ressort, ils reprennent la leçon là où ils en étaient précédemment et quitte à terminer plus tard.
Voilà, quitte à
donc il y a oui.
Non, mais on comprend bien en fait. Hein. C'est toujours quelque chose qui est intéressant de voir entre la volonté de l'institution et ses textes officiels. Et puis la réalité du terrain, c'est ce que vous avez étudié, hein, Céline Labrune-Badiane, et également Jérôme Kropp. Jérôme Kropp, je rappelle, hein, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'INSPE, l'Institut National Supérieur du Professorat et de l'Éducation à Lille. Donc toute une réflexion autour de l'enseignement, de la manière d'enseigner. D'ailleurs, c'est toute une réflexion qu'on pourrait avoir sur comment apprendre à enseigner. Mais l'idée, c'est vous qui avez étudié ces fondateurs de la République. Quand vous regardez l'actualité d'aujourd'hui, et vous avez étudié ces textes, vous avez vu ces parcours d'instituteurs, d'institutrices, est-ce que vous vous dites il y a des choses à apprendre sur ce qu'est la laïcité des origines, c'est-à-dire cette volonté de pacifier l'école, un lieu neutre au cœur de la société, et le fait religieux se fait dans la famille ou se fait les jours où il n'y a pas école.
Je pense que oui, cet idéal, il est toujours aussi moderne. Et pour compléter peut-être ce que je disais tout à l'heure, il me semble que malgré les difficultés, malgré le sentiment que les enseignants peuvent avoir de parfois ne pas être entendus, ils font un travail quotidien dans les classes. Hein, je pense à tous mes collègues. Moi, j'ai longtemps travaillé dans l'enseignement secondaire dans l'Académie de Versailles. Je pense à tous mes collègues qui, jour après jour, travaillent, développent un enseignement moral et civique dans les classes. Et finalement, aujourd'hui encore, je pense que les enseignants sont les personnes qui parlent le plus longuement aux élèves de leur citoyenneté, de leurs droits, de leur liberté. Et on leur doit encore aujourd'hui la force de notre République.
Et pour pousser encore la réflexion, une réponse est faite de manière évidente lorsqu'il y a comparaison en histoire entre ces combats de l'école laïque de la fin du 19e et du début du 20e siècle avec ce qui se passe aujourd'hui. Les combats étaient violents, mais il y a un mort aujourd'hui, il y a un professeur Samuel Paty qui a été tué, décapité. Et là, le contraste est saisissant dans les combats. Quelle réponse apporter au-delà de l'émotion que nous vivons sur la nécessité de conserver cet idéal, mais pas un idéal inaccessible, au contraire, quelque chose à appliquer, d'une école laïque?
Cet idéal, à mon sens, il est encore une fois, il existe toujours dans les classes. Je pense que la plupart des élèves s'y reconnaissent et je pense que notamment les musulmans de France, pour la plupart, se reconnaissent dans cet idéal qui fait que même lorsqu'on appartient à une religion minoritaire, on a le droit de pratiquer son culte, on a le droit à l'instruction, on a le droit à la citoyenneté. Et ça, je pense que ça reste au fondement de notre société, malgré les attentats terroristes qui ont pu endeuiller notre pays.
Voilà, donc un combat qui continue ou un combat qui n'a jamais cessé en vérité. Céline Labrune-Badiane, une réflexion autour de ce que nous vivons aujourd'hui. Vous enseignez au Sénégal. Y a-t-il une répercussion, des commentaires particuliers sur ce qui s'est passé en France ?
Oui, de ce que j'entends parmi mes collègues enseignants, on est évidemment horrifié par ce qui s'est passé en France et l'école paraît toujours véritablement au cœur, enfin comme l'outil essentiel des combats qui a mené contre l'ignorance, contre le fanatisme, etc., etc.
Eh bien, écoutez, merci à vous deux de nous avoir évoqué ces hussards noirs de la République, ces longs combats qui ne sont pas terminés pour une école laïque. Et je rappelle, Jérôme Krop, que vous êtes l'auteur de « La méritocratie républicaine, élitisme et scolarisation de masse sous la Troisième République », ainsi que d'un ouvrage intitulé « Les fondateurs de l'école républicaine, la première génération des instituteurs sous la Troisième République ». Oui, nous lisons aujourd'hui la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs, cette naissance de ce monde et de cet idéal nous porte aujourd'hui. Puis je rappelle, Céline Labrune-Badiane, vous êtes l'auteur avec Étienne Smith des Hussards noirs de la colonie, instituteurs africains et petite patrie en Afrique occidentale française. Merci beaucoup à vous deux. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien.
Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous.
Alors ce matin, dans le journal de l'histoire, peut-on vraiment manipuler une élection? Ou plutôt, comment peut-on y croire?
Les élections présidentielles aux États-Unis sont toujours un processus de longue durée, avec leurs primaires et leurs campagnes à travers les 50 États qui les constituent. Celle de demain aura été marquée par de nombreux soubresauts, à commencer par la question du vote lui-même, avec la remise en cause des suffrages exprimés par correspondance et un climat de défiance lié au discours de Donald Trump sur les vérités alternatives qu'il a empilées sans scrupule. Une de ces rumeurs, lancée dès l'été dernier, portait sur la possibilité d'un vote entaché d'anomalies qui remettrait en cause sa validité, une éventualité en faveur bien sûr de son rival Joe Biden.
Because the only way we're going to lose this election is if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election. So we have to be very careful.
La seule manière de nous faire perdre ces élections serait de les truquer. Le pavé était lancé dans la mare. En instillant le doute, le candidat, adepte de la théorie de tous les complots à son profit, faisait planer l'ombre d'une des grandes terreurs nationales, le dysfonctionnement de la mécanique démocratique américaine. En matière d'élections truquées, c'est l'histoire italienne qui a longtemps occupé une place de choix. En 1948 se tiennent les premières élections générales depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout les premières élections au sein d'un État devenu république après avoir rejeté la monarchie. Des élections majeures et un test national, un observatoire pour mettre à l'épreuve un pays déchiré par la guerre entre communistes et fascistes, une guerre civile à peine cicatrisée.
Per queste elezioni dobbiamo votare tutti quanti, nessuno escluso. E ma naturale, perché sennò poi dopo vengono i pentimenti e i rimorsi. Bravo così. Votare per chi si vuole, ma votare.
Voter pour qui vous voulez, mais voter. La campagne se déroule surtout sur le terrain des enjeux de politique locale. Les communistes, pourtant très confiants, perdent face aux démocrates chrétiens. Que s'est-il passé? L'Union soviétique n'avait alors aucun intérêt à enflammer l'Europe occidentale et avait interdit toute tentation insurrectionnelle aux communistes italiens, qui ont donc mené une campagne politique sans tenter de rouvrir par les armes un conflit dont les braises étaient à peine refroidies. Mais leur défaite est spectaculaire et inattendue. Ce qui importe dans cette victoire de la démocratie chrétienne, presque inespérée, c'est ce qu'on y apprend. Avec elle vient la conviction que les opérations de propagande électorale sont prometteuses pour l'avenir. Ceux qui pouvaient craindre le basculement d'une nation européenne dans le camp soviétique, les États-Unis, ont bien essayé de fragmenter le syndicalisme italien largement dominé par les communistes. La CIA, à peine née, a investi, mais finalement assez peu dans cette campagne.
Vous écouterez la voix de votre conscience. Attention! Dans le secret de la cabine électorale, Dieu vous verra.
Et Staline, non.
Le résultat tient au contexte national et à une posture italienne d'apaisement intérieur. La priorité est à la reconstruction et à la fondation d'une république italienne qui ne saurait supporter un nouveau schisme. Mais ce qui a des conséquences immédiates, c'est cette conviction des services américains qu'une guerre psychologique menée au sein d'une société étrangère peut payer. Depuis, les archives ont montré que l'influence américaine sur les résultats du vote restait discutable. Mais cette conviction, acquise en 1948, a marqué l'état d'esprit stratégique qui investit dans la suite de la guerre froide dans cette politique d'influence, avec un succès très variable selon la stabilité démocratique des pays ciblés.
Merci Anaïs, on retrouve le journal de l'histoire en ligne ou en podcast sur l'application Radio France et sur le site franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Jean-Frédéric. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Odile Jouessel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Dès demain, le cours de l'histoire se met au vert. Oui, nous consacrons une série de 4 émissions à la nature, avec le monde sous étiquette quand les explorateurs collectent la nature. Ah, il n'y a plus de saison. La construction, l'invention d'un discours, et puis comment écrire les grands espaces. Et demain, nous allons réfléchir à la nature confisquée, histoire du colonialisme vert, des émissions à écouter, à podcaster sur le site internet franceculture.fr et sur l'application Radio France, et puis des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire, où vous êtes de plus en plus nombreux, oui, de plus en plus nombreux, oh là là, et ce qui fait très plaisir. Pour commenter ces émissions, suivre l'actualité du cours de l'histoire et puis suivre l'actualité de la recherche en histoire.